France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité sociologue a choisi d'évoquer un texte qui aurait pu ne jamais être entre nos mains. Les souvenirs d'Herculine Barbin, dite Alexina B. Élevée comme une jeune fille, elle devient légalement et médicalement, à l'âge de 21 ans, Abel Barbin. Ses souvenirs laissés après son suicide et retrouvés parmi des archives médico-légales, Foucault les a lus pour son histoire de la sexualité, lisons-les aujourd'hui pour repenser et surtout réinventer le genre.
Vraiment, vous ne voulez pas venir?
Allons, il est tard! Il faut rentrer!
Vous ne voulez pas que nous arrêtions un moment?
Non, pourquoi?
Pour vous reposer. Vous n'êtes pas fatiguée?
Mais non, pourquoi serais-je fatiguée?
Moi, je suis toujours fatiguée dans ces périodes-là.
Quelle période? Je ne vous comprends pas.
Votre sang? Vous n'avez pas votre sang entre les jambes?
Mais non.
Mais vous ne vouliez pas vous baigner avec nous, alors je croyais... C'est très mauvais de se baigner pendant les règles.
Mais je n'ai pas mes règles.
Pardon.
Je n'ai jamais eu mes règles.
Pardon, Alexina. Dites-moi que vous me pardonnez.
Mais bien sûr, Sarah. Bien sûr, je vous pardonne.
Bonjour, Éric Fassin.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Souffle de la Pensée. Vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au département d'études de genre et de sciences politiques. Vous avez écrit sur les études de genre, vous avez postfacé le texte inédit de Foucault, Les Hermaphrodites, qui vient de reparaître, enfin qui vient de paraître même, puisque c'est un inédit. Vous avez édité en 2014 Les Souvenirs d'Herculine Barbin, dite Alexina B. Alors, qui était Herculine Adélaïde Barbin, dite aussi Alexina B, dite aussi Abel Barbin, ou encore Camille dans son propre texte?
Alors effectivement, il y a déjà une difficulté qui est en même temps un des intérêts de ce texte, c'est de savoir qui est l'auteur. L'auteur, eh bien, c'est peut-être une autrice, et pendant très longtemps, on l'a seulement nommée au féminin. C'est le cas lorsqu'il y a une première publication en 1872 par un médecin légiste, Ambroise Tardieu. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ça comme un cas. Donc ce sera Alexina B. pour protéger son anonymat, donc seulement l'initiale. Et le fait de choisir ce cas, eh bien, c'est pour prouver qu'il est très dangereux de se tromper sur le sexe d'une personne, et que cette personne qui a longtemps été considérée, donc jusqu'à l'âge de 21 ans, comme une femme, eh bien, c'était un homme. Donc c'est la catégorie qu'on appelle à l'époque pseudo-hermaphrodite. Autrement dit, il y a un vrai sexe, et ce vrai sexe s'est révélé à l'âge de 21 ans. Et enfin, Alexina, Herculine, Adélaïde est devenue Abel. En même temps, lorsqu'il publie ça, donc c'est pour justifier l'idée que si on se trompe, eh bien on risque d'avoir des gens du même sexe qui se marient. Il est donc très important de ne pas se tromper.
C'est un péril moral.
Voilà.
De mettre en garde.
C'est une inquiétude sociale sur la confusion. Et bien sûr, c'est ça qui intéresse Michel Foucault quand il republie le texte en 1978. En 1978, il le publie après avoir fait une recherche pour essayer de retrouver le véritable prénom, celui qui était principalement utilisé, à savoir Herculine. Donc, je racontais dans la postface de 2014...
Donc, c'est souvenir que vous avez édité.
Voilà. Qui avait déjà donc été publié en 1978 par Foucault, mais de manière très dépouillée, c'est-à-dire avec seulement le texte et un petit dossier documentaire. Mais ce qui n'avait pas été raconté, entre autres, c'est comment il a retrouvé tout cela, et Daniel Defer, son compagnon, qui était encore vivant en 2014, eh bien, le raconte comme une sorte de périple assez romanesque à la recherche eh bien, de traces, sinon d'un manuscrit, puisque le manuscrit, personne ne l'a jamais retrouvé. On ne connaît que l'édition qui a été publiée au XIXe siècle. Mais comment il se dirige vers une île au bord de l'Atlantique, et que heureusement il y a un pont pour aller à Oléron, et donc pourquoi pas commencer par Oléron, et que là, Foucault, d'après la lecture du texte, reconnaît le paysage, et que ensuite, la fille du pâtissier va pouvoir indiquer, à travers l'aide de son grand-père, qu'il y avait plus loin une école religieuse qui n'existe plus, remplacée par un parking, et de proche en proche, donc Michel Foucault et Daniel Defer vont retrouver les cahiers qui datent du XIXe siècle, de toutes ces classes, et en particulier donc le nom même d'Herculine,
donc,
qui jusqu'alors n'était pas connu.
Alors, comment vous décidez, Éric Fassin, qu'on appelle Herculine pendant cette émission ? Est-ce qu'on décide de l'appeler Herculine ? Est-ce qu'on décide de l'appeler Abel, Alexina ? Est-ce qu'on est obligé d'ailleurs de décider ? Parce que voilà, comme vous le racontez, ce texte, en fait, c'est un voyage qui est incroyable. C'est à la fois le voyage d'une personne, mais aussi c'est le voyage d'un texte et le voyage d'un auteur, d'une autrice. Alors nous, est-ce qu'on doit décider ?
Alors, ce qui est intéressant d'abord, c'est que, à ma connaissance, personne, dans les personnes qui ont écrit jusqu'à très récemment, et en particulier jusqu'à 2014, personne n'avait rebaptisé Abel Herculine Barbin. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en quelque sorte, s'imposait l'idée qu'on connaissait ce texte qu'à travers Michel Foucault.
Or, il avait fait écran, vous voulez dire ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas le texte tout seul, on pense toujours les textes à travers des lectures. Et c'est pour moi un des éléments importants. Les différentes éditions sont des relectures, mais aussi, en un sens, des réécritures. On ne lit plus la même chose. Et donc, on a longtemps lu à travers Michel Foucault. Par exemple, il y a le fait que Michel Foucault, qui publie une préface seulement 2 ans plus tard pour l'édition américaine, en 1980, eh bien, Michel Foucault, il dit que ce sont la médecine et la religion qui imposent le changement de sexe pour établir un vrai sexe à Herculine Barbin. Or, ça n'est pas le cas.
On va revenir là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant dans le texte.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette lecture-là qui va prévaloir.
Oui, oui, oui.
Et pendant très longtemps, et en particulier, je crois, jusqu'à 2014. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on n'appelait jamais Barbin Abel dans la littérature. Pourquoi ? Eh bien, parce que on le voyait à travers Foucault. Aujourd'hui, si une personne change de sexe, eh bien, on l'appellera par un prénom qui correspond au sexe devenu son vrai sexe.
Et qu'elle a choisi, et
voilà.
Du prénom qu'elle a choisi.
Alors, évidemment, c'est très compliqué, puisque dans le texte, le prénom est modifié,
oui.
Et qu'il y a une référence à Camille en disant « Votre marraine a eu la main heureuse,
oui, on va l'entendre
Camille ». Mais la difficulté, c'est que, en fait, le texte, il est écrit depuis la fin de la vie. C'est un manuscrit qui a été laissé avant son suicide. Et donc, en fait, quelle est la vérité du sexe d'Herculine Barbin ? En un sens, l'indécision est la règle. Si on veut résister à l'injonction du vrai sexe, il me semble que ça ne veut pas dire ni qu'il faudrait dire Herculine, ni qu'il faudrait dire Abel, c'est qu'il faudrait presque constamment bégayer.
Alors on va bégayer, c'est ça que vous proposez ?
Écoutez, en tout cas, on peut changer un peu tout le temps, parce que l'idée même, c'est qu'il n'y a pas de vérité.
Quand j'ai parlé de ce texte cette semaine, voilà, avec l'équipe pour préparer, je pense que j'alternais très spontanément entre elle, il, Abel, Herculine. C'est vrai que Herculine a peut-être prédominé dans mes conversations, parce que c'est le titre qui apparaît, c'est « Souvenirs »,« Mes souvenirs », et c'est Herculine Barbin, dite Alexine Abbé, présentée par Foucault. Donc, effectivement, c'est Herculine qui prédomine. Vous, Éric Fassin, au-delà de savoir comment vous appelez voilà, Herculine ou Abel, comment vous avez rencontré ce texte ? Est-ce que vous avez fait un périple, vous aussi ? Est-ce qu'une fois que vous avez eu le texte entre les mains, vous avez voulu vous détacher aussi de toutes les lectures qui, à la fois, ont visibilisé le texte, mais ont aussi fait écran ?
Eh bien, qu'on l'appelle Herculine, Abel ou autrement, je dirais peut-être Barbin, tout simplement.
Ouais, Barbin, pas mal. Ouais.
Eh bien, je m'y suis intéressé d'abord, comme je crois tout le monde, à travers d'autres textes. à travers la lecture qu'en propose Judith Butler, relisant déjà Michel Foucault. Donc déjà,
donc on est dans les années 90 à ce moment-là.
Voilà, je suis rentré en France après avoir enseigné aux États-Unis en 1994 et j'ai commencé des séminaires sur les questions de genre et de sexualité. Et donc j'ai été amené à parler de genre et de sexualité, mais aussi d'auteurs, d'autrices comme Judith Butler et son livre Troubles dans le genre, qui consacre des pages importantes à Herculine Barbin, avec une critique de Michel Foucault, à qui Butler reprochait en quelque sorte de n'être pas assez foucaldien. C'est-à-dire d'avoir été tenté avec Barbin, de s'imaginer un monde qui serait en deçà de la loi qui nous impose un sexe, avec une sorte de rêverie autour de ce moment où Barbin, peut se permettre d'être dans l'indécision, et l'érotisme tiendrait précisément au fait de ne pas véritablement savoir, d'être affranchi du sexe pour pouvoir exprimer, ressentir des désirs qui ne se réduiraient pas à la catégorie du sexe. Mais ça, ce que dit Judith Butler à juste titre, c'est que c'est pas du Foucault. Puisque pour Foucault, il n'y a pas quelque chose qui serait avant la loi. La loi produit nos subjectivités. La loi, bien sûr, pas seulement au sens légal, mais disons l'ordre social, les normes nous définissent tels que nous sommes. Et donc, de ce point de vue, je crois que cette lecture, elle est intéressante, puisque elle nous dit qu'au fond, il y avait un fantasme chez Foucault de s'affranchir de la loi au moment même où il décrivait le fait que ça n'était pas possible. Donc, ce témoignage, c'est ainsi qu'il le lisait, me semble-t-il, ses souvenirs, seraient en quelque sorte l'exception à la règle. Une sorte de fantasme, d'affranchissement.
D'une vie sans genre et sans sexe.
Voilà. Et il y a une phrase que Foucault utilise dans la préface américaine, qui est l'idée que ce serait un peu comme le sourire sans le chat. C'est une référence à Lewis Carroll, à Alice au Pays des Merveilles et au chat du Cheshire. Et évidemment, c'est quoi un chat sans sourire? Comme dit Alice, je connaissais bien des chats sans sourire, mais des sourires sans chat, ça, je ne connaissais pas. Eh bien, en fait, c'est un peu ça la question pour Michel Foucault, c'est d'essayer d'imaginer des sourires sans chat, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer ce que serait le désir s'il n'était pas déjà pris dans la loi de la catégorisation sexuelle.
Mais ce qui est intéressant, Eric Fassin, c'est que là, vous me parlez de Judith Butler, de Michel Foucault, et vous. Vous, comment vous avez découvert ce texte? Alors, voilà, vous en avez entendu parler, je comprends bien, par ces deux figures de la philosophie et des études de genre et de la sexualité. Mais vous, à un moment donné, vous vous dites, bon, ben moi, je veux les lire, ces souvenirs.
Voilà.
Et là, qu'est-ce qui se passe?
Ce qui se passe, c'est que ce texte était devenu très difficile à trouver, en français. En anglais, ça a toujours été facile de le trouver. Autrement dit, la postérité de ce texte, c'est d'abord en anglais. Et je reviendrai là-dessus parce que la question de la langue est
tout.
Très importante.
Mais, oui.
Mais en français, c'était épuisé. Et donc, j'ai été
surpris. C'est l'apparition de Foucault en 78. Donc.
Voilà, et ouais. Ça avait été réédité. Mais c'est au moment où j'ai voulu l'acquérir, dans les années 2000, c'était épuisé. Donc, j'ai approché l'éditeur en disant ce serait bien de le rééditer, d'autant plus que les questions dites intersexes, c'est-à-dire le mouvement qui a converti ce qui était jusqu'alors une condition médicale en une revendication politique, pour être des sujets qui ne seraient pas déterminés par la médecine, et donc pour parler à la première personne, évidemment, l'idée qu'il existe un texte du 19e siècle où on voit, où on entend une voix, ça me paraissait très important. Mais il a fallu quelque temps pour intéresser véritablement. Et donc, pour moi, c'était aussi la volonté de faire résonner un texte ancien, plusieurs fois ancien, c'est-à-dire ancien 19e siècle, publié d'abord par un médecin homophobe, dirait-on aujourd'hui, republié par Michel Foucault un siècle plus tard, et ensuite relu par Judith Butler, donc ces différentes épaisseurs, mais ça résonnait avec une actualité qui, d'ailleurs, n'était pas encore d'actualité, si je puis dire, au moment même où Judith Butler écrivait « Troubles dans le genre » et les pages qu'elle consacrait à Barbin, c'est-à-dire, à partir de 1993, en gros, l'émergence d'une question intersexe portée par des personnes comme Cheryl Chase aux États-Unis, qui va, par exemple, défendre une position qui est « hermaphrodites with attitude », c'est-à-dire des hermaphrodites avec une sale attitude, qui, en gros, conteste la place qu'il aurait assignée. Mmh. Et c'est ça qui me paraissait intéressant, c'est de faire résonner un texte ancien avec l'actualité, puisque c'est le fond de mon travail, c'est de considérer qu'on doit penser à partir d'aujourd'hui.
Mais ça, c'est intéressant, Éric Vazin, parce que déjà, vous ne répondez pas à ma question de qu'est-ce que ça vous a fait de lire le texte et qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi aujourd'hui ? Parce que, en fait, c'est un texte, quand vous le découvrez, vous êtes déjà enseignant, vous êtes déjà sociologue, vous avez déjà, bon, je ne sais pas si le terme de vocation vous plaît, mais enfin, vous avez déjà trouvé votre voie, en tout cas, dans les études qui vous plaisent, les travaux. Là, il y a quand même un truc qui se passe pour que vous m'en parliez aujourd'hui. Au-delà de l'actualité et du fait que ça vous paraisse un témoignage important, c'est que ça vous semble soulever quelque chose de crucial et je dirais pas d'intime, mais de quelque chose qui, voilà, qui vous porte.
Oui, bien sûr. Y a le fait de s'inscrire soi-même dans une histoire de réflexion. Mmh. Et ça, c'est ce que je viens de rappeler. Mais il y a aussi le texte lui-même. Ah, oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à lire le texte, on se dit, comment se fait-il que ce texte n'ait pas intéressé grand monde en France ? Parce que eh bien, il y a une écriture. Il y a précisément une voix. Ça n'est pas seulement un témoignage. C'est-à-dire qu'il y a une forme, il y a un travail de la forme, à la fois conventionnel pour le 19e siècle. Une écriture apprêtée, dit, je crois, Michel Foucault.
Et il dit un style élégant, mais bon, un peu typique des pensionnats de jeunes filles, et là où a grandi d'ailleurs Barbin.
Ce qui est vrai, mais en même temps, eh bien, évidemment, cette prise de parole à la première personne, ça change tout. Mmh. Et l'effort du style, c'est-à-dire l'effort pour produire une forme et pas simplement pour se couler dans des conventions, eh bien, ça commence précisément par la question du genre. Mmh. Et en particulier, du genre grammatical. Mmh. Donc, évidemment, nous ne savons pas ce qu'était le manuscrit. Nous savons seulement ce qui a été publié par Ambroise Tardieu, qui d'ailleurs a, et il le revendique, couper une partie de sa vie, de la vie de Barbin en tant qu'homme, parce que ce n'était que récrimination.
D'ailleurs, dans votre édition, à un moment donné, est signalé, Éric Fassin, que le récit s'interrompt et que, en fait, le récit a été constitué après de bribes retrouvées. Et effectivement, d'ailleurs, il y a un changement de style, plus présent, plus désespéré, plus par bout, enfin moins dans la fluidité, d'une certaine manière, moins
le,
suivi.
Il est en un sens logique que Ambroise Tardieu n'ait pas voulu trop insister sur le fait que, eh bien, le vrai sexe, ça ne marchait pas. Mmh. C'est-à-dire qu'être devenu un homme n'avait pas rendu Barbin heureux ou heureuse. Mais en fait, en même temps, Ambroise Tardieu était pris dans les mêmes contradictions, puisqu'il veut absolument montrer que c'est un homme et il l'intitule Alexina B. Autrement dit, un prénom féminin.
Ouais.
Et tout le monde est pris dans des contradictions constamment, et c'est là qu'il y a quelque chose qui renvoie aux tensions du texte, c'est-à-dire comment se nommer soi-même lorsqu'on a été une personne puis une autre. Donc en fait, ça n'est pas, ce ne sont pas les souvenirs, comme l'aurait voulu la médecine du 19e siècle, d'un pseudo-hermaphrodite, ce sont les souvenirs d'un changement de sexe, ou peut-être de genre. C'est-à-dire que le changement de sexe, c'est à l'état civil, mais le changement de genre, eh bien, ça se voit déjà dans le texte, dans le fait que les premières lignes du texte sont au masculin parce qu'on est au présent.
Mmh.
Donc, Barbin dit « seul », sans « e » à la fin.
Mmh.
Mais dès la première page, on passe au féminin, simplement le féminin en italique. Donc, dans le manuscrit, on peut supposer que c'était souligné.
Ouais.
Et à partir de quel moment va-t-il y avoir un changement de genre grammatical, eh bien, c'est précisément au moment de la rencontre amoureuse, du coït, très littéralement, c'est-à-dire que le pluriel va permettre de montrer que le masculin l'emporte sur le féminin, autrement dit, Barbin devient un homme à travers l'acte sexuel avec une femme, à ses propres yeux, dans son propre texte.
On va écouter ce texte, Éric Fassin, mais juste avant de l'écouter, parce que vous l'avez parfaitement introduit, est-ce que, comme moi, vous avez été ébloui, et je dis bien ébloui, à la lecture de ce texte, tant par sa sincérité que sa finesse d'analyse du rapport à son corps, du rapport à la vie avec des jeunes filles, du désir qu'il éprouve, de la gêne, de la honte, mais aussi, en fait, du courage dont Barbin fait preuve, alors qu'en fait, il est entouré à certains moments de bienveillance qui disent « ne dis rien, ne fais rien, ne dis pas en fait que tu as découvert quelque chose dans ton corps qui ne correspond pas au féminin, à l'assignation féminine qu'on t'a attribuée. Est-ce que vous n'avez pas été quand même vachement touché par ça ?»
Compter
qu'en plus, ça se passe en Charente-Maritime. Donc, comme je viens de Saintes et qu'il est question de Saintes, ça m'a beaucoup touchée. Mais voilà. Alors,
je ne viens pas de Saintes, mais j'ai également été touchée. Et la preuve, c'est que c'est bien sûr le texte que j'essaie de porter depuis des années. Mmh. J'ai insisté pour cette réédition, j'y ai travaillé, et je vous en parle aujourd'hui, 12 ans plus tard. Donc c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. Mais ce qui m'accompagne peut-être le plus, c'est précisément le fait que ce n'est pas seulement l'émotion, c'est aussi l'intelligence de ce texte et ses contradictions, ses tiraillements. Ça n'est pas un texte, et c'est en ce sens-là aussi qu'il est littéraire, qui développe une thèse. C'est un texte qui échappe à tout cela. Parce que, après tout, savoir pourquoi Barbin a changé de sexe, pourquoi Barbin a voulu changer de sexe, d'un côté est très simple, c'est l'hétérosexualité. Donc, pour rétablir l'ordre hétérosexuel, il fallait qu'il fût un homme.
Parce qu'il avait du désir, effectivement, pour les femmes avec qui il vivait, et notamment pour une jeune femme.
Mais d'un autre côté, il y a la contradiction qui fait qu'une fois qu'il a changé de sexe, eh bien, il se sépare de la femme qu'il aime. Sans qu'on comprenne véritablement pourquoi, puisqu'il continue de l'aimer, mais c'est devenu impossible, alors que changer de sexe était la condition de possibilité en apparence.
De leur amour.
Donc, les contradictions disent aussi quelque chose du fait qu'on n'est pas dans un document didactique. Ça échappe à la fois à la logique imposée par le médecin au XIXe siècle, mais ça se dérobe aussi aux interprétations qui ont pu en être proposées ensuite, que ce soit par Michel Foucault ou par Judith Butler, ou, je n'en doute pas, par moi-même.
Je priais un soir mon amie de partager mon lit. Elle accepta avec plaisir. Dire le bonheur que je ressentis de sa présence à mes côtés serait chose impossible. J'étais folle de joie. Nous causâmes longuement avant de nous endormir, moi, les deux bras passés autour de sa taille, elle, reposant le visage près du mien. Mon Dieu ! Ai-je été coupable ? Et dois-je donc ici m'accuser d'un crime ? Non, non. Cette faute ne fut pas la mienne, mais celle d'une fatalité sans exemple, à laquelle je ne pouvais résister. Sarah m'appartenait désormais, elle était à moi. Ce qui, dans l'ordre naturel des choses, devait nous séparer dans le monde, nous avait unis. Qu'on se fasse, s'il est possible, une idée de notre situation à tous deux. Destinés à vivre dans la perpétuelle intimité de deux sœurs, il nous fallait maintenant dérober à tous le secret foudroyant qui nous liait l'un à l'autre. C'est là une existence qui ne saurait être comprise. Le bonheur que nous allions goûter ne pouvait-il pas, par quelques circonstances imprévues, éclater au grand jour et nous marquer au front de la réprobation publique ? Pauvre Sarah, quelles terribles angoisses je lui ai causées. Le lendemain de cette nuit la trouva anéantie. Ses yeux, rougis par les larmes, portaient l'empreinte d'une insomnie cruellement tourmentée. N'osant braver ainsi le regard clairvoyant d'une mère, elle ne vit la sienne qu'au déjeuner. Assurément, j'étais moins troublé, mais je n'avais pas la force de lever les yeux sur Madame P., pauvre femme qui ne voyait en moi que l'amie de sa fille, tandis que j'étais son amant.
Extrait de mes souvenirs d'Herculine Barbin, dite Alexina B, dite aussi, on pourrait dire, Abel, notamment dans ce moment du texte que vous avez choisi, Éric Fassin, où il y a vraiment un moment de bascule. Alors, on va parler de ce moment de bascule qui est très important du point de vue aussi même grammatical, du point de vue de la langue. Mais avant, j'aimerais quand même rappeler voilà, que Herculine naît en 1838 à Saint-Jean-d'Angély et qu'elle est très vite prise en charge parce que sa mère ne peut pas, a la possibilité de le faire, mais n'a pas les moyens de l'élever, dans des couvents de jeunes filles, dans des pensionnats, et puis qu'elle décide de devenir institutrice. Elle suit donc des cours sur l'île d'Oléron pour devenir institutrice, donc tout le temps avec, avec des jeunes femmes. Et puis elle est diplômée, et elle arrive donc dans cette maison, dans cette école tenue par Madame P, et elle devient institutrice avec la fille de Madame P, qui est donc Sarah. Et voilà, voilà ce qu'il se passe, Éric Fassin. Alors, que se passe-t-il? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la présentation un peu du parcours qu'Herculine retrace dans les premières pages de ses souvenirs?
Bien, ce qui est clair, c'est qu'elle vit dans un monde de femmes. Et donc, la question...
De l'homosocialité, on pourrait dire.
De l'homosocialité, effectivement, qu'on peut distinguer de l'homosexualité, c'est-à-dire que vivre entre femmes, ce qui n'exclut pas, mais ce qui n'est pas non plus une obligation de désir. Donc, cette vie protégée, cette vie largement imprégnée de religion, mais aussi d'éducation, c'est-à-dire qu'elle participe elle-même à l'éducation de jeunes filles dans un monde de séparation entre les deux sexes, eh bien, elle va être perturbée par ce désir. Parce que c'est ce qui est interdit. D'autant plus que la jeune femme dont elle s'éprend, eh bien, c'est la fille de sa patronne. Donc, en fait, elle doit dissimuler. Mais ce qui est intéressant dans le texte qui vient de nous être lu, c'est que la marque grammaticale, elle signale que tout bascule. C'est-à-dire que la rencontre sexuelle, c'est le changement du féminin avec italique qui caractérise la première moitié.
Donc j'étais folle de joie.
Voilà.
Et là, on l'entend dans le texte.
J'étais folle de joie, mais ensuite, la prochaine marque grammaticale, c'est « Sarah m'appartenait désormais, elle était à moi ». Ce qui, dans l'ordre naturel des choses, devait nous séparer dans le monde, nous avait unis. Le français, avec l'imposition d'une règle depuis le XVIIe siècle, selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin, eh bien, unis s'écrit sans E dans ce cas-là. Ce ne sont pas deux femmes, c'est déjà un homme et une femme.
Et c'est écrit IS.
C'est écrit IS, mais on ne l'entend pas encore si on le lit. Et c'est dans la phrase suivante qu'on l'entend, qu'on se fasse, s'il est possible, une idée de notre situation à tous deux. Autrement dit, ça n'est pas toutes deux. Ces détails grammaticaux, ils sont significatifs parce que, manifestement, ils sont travaillés. Il y a un effort pour essayer de penser ce basculement. C'est l'enjeu même du livre. C'est, ça veut dire quoi, basculer d'un monde à un autre? Alors, selon Foucault, c'est basculer d'un monde de l'indécision du sexe à un monde du vrai sexe. On pourrait dire aussi que c'est passer, tout simplement, d'un sexe à un autre, mais au fond, sans que la question du genre soit résolue. Parce que c'est celle-là qui est mise entre parenthèses et au XIXe siècle et au XXe siècle par Michel Foucault. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette dimension grammaticale qui est évidente quand on lit le texte attentivement, c'est-à-dire quand on le lit comme un texte littéraire, quand on s'attache à sa forme, quand on s'attache aux mots, eh bien, c'est ce qui est resté invisible. C'est-à-dire que, à ma connaissance, il n'y a eu aucun commentaire avant cette réédition de 2014 et ma postface sur ce qui pourtant, une fois qu'on le dit, je crois, crève les yeux. C'est-à-dire que changer de sexe, ça a des rapports, surtout quand on le fait en parlant français, avec la langue. C'est-à-dire que la langue, c'est tout autant sans doute que la médecine ou que la religion, tout autant que l'État, eh bien, c'est une injonction qui nous dit comment nous devons parler.
Définissez-vous, en fait.
Voilà, c'est la raison pour laquelle, dans un petit que sais-je sur les études de genre, j'ai insisté là-dessus, sur le fait que, au fond, l'histoire d'Herculine Barbin ou d'Abel Barbin, ou etc., eh bien, c'est une manière de comprendre ce que c'est que le rappel à l'ordre linguistique en français. On nous a longtemps dit qu'on ne pouvait pas traduire le mot anglais « gender », que, en fait, on ne pouvait pas dire « genre », parce que « genre », c'était seulement pour la grammaire. Ben oui, mais dans la grammaire, ça a beaucoup à voir avec le genre. Parce que quand on parle, on est censé parler en accordant les mots au féminin ou au masculin, selon l'identité qu'on est censé avoir. Et sinon, on provoque des ricanements, voire une agressivité, voire de la violence. Donc je crois que le rappel à l'ordre linguistique, ici, il est montré, c'est-à-dire qu'il est manipulé, en quelque sorte, par Barbin, qui se réapproprie le
oui,
langage.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que quand on est lecteur, lectrice de ce texte, alors, vous êtes attentif parce que vous l'avez lu à la fois comme un texte littéraire, mais aussi avec votre œil de sociologue intéressé, travaillant sur les études de genre. Moi, je l'ai lu comme un texte, comme les souvenirs d'une personne. Eh bien, j'ai même pas fait attention. C'est-à-dire que vraiment, il y avait aussi une fluidité, alors que dans les conversations ordinaires, on est attentif à ces rappels à l'ordre linguistique. Là, on a l'impression qu'Herculine, Abel, que Barbin, s'est effectivement emparé de la langue, et on a fait quelque chose d'intériorisé, non pas comme un rappel à l'ordre, mais comme une sorte de plasticité de la langue qui peut aussi dire les incertitudes, ce que ne permet pas d'ailleurs la langue anglaise. On ne peut pas en fait avoir ces fluctuations du féminin au masculin ou inversement.
C'est le paradoxe, c'est que comme le texte de Barbin a été lu principalement en anglais, et beaucoup moins en français, eh bien, on a sous-estimé à la suite de Michel Foucault cette dimension de genre, au sens le plus littéral, doublement, genre grammatical, mais aussi genre en termes de sexe, ça a été largement sous-estimé. Alors qu'en français, c'est beaucoup plus visible qu'en anglais. En anglais, c'est effacé. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que Michel Foucault, pour la préface qui a été publiée en anglais, eh bien, il rédige le texte de sa préface en français, mais c'est traduit ensuite.
C'est pas lui qui l'a traduit, c'est pas lui qui l'écrit directement en anglais.
Non, non. Et donc, j'ai pu retrouver le manuscrit. Et qui est dans les archives. Enfin, j'ai pu le retrouver, ça n'est pas très compliqué, c'est dans les archives qui sont à la BNF. Mais,
vous n'êtes pas allé au fin fond de l'île d'Oléron.
Exactement. Il n'y a pas eu un périple romanesque. ça a été simplement et sagement une visite à la Bibliothèque nationale de France. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que, en fait, on s'aperçoit que Foucault est tellement pris dans la volonté de dire « peu importe cette question de genre », même s'il n'utilise pas le terme à l'époque, que, eh bien, il va commettre eh bien, des lapsus. Ce qui est très inhabituel pour Michel Foucault. Michel Foucault, c'est quelqu'un qui maîtrise la langue bien plus que moi, par exemple. Et ce que fait Michel Foucault, c'est qu'il va parler, alors en anglais, c'est « the happy limbo », donc en français, les limbes heureuses de la non-identité. Mm-hmm. Autrement dit, l'époque où l'assignation ne fonctionnait pas, en quelque sorte, avant la loi. Sauf qu'en français, les limbes, c'est masculin. Et donc, ce serait les limbes heureux. Donc, cette féminisation...
Ah ben, ça ne paraît pas naturel, vous voyez, j'aurais dit les limbes heureuses, moi.
Voilà, mais c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, dans l'édition Gallimard, et malgré le fait que je l'ai noté en 2014, c'est toujours les limbes heureuses, en quelque sorte.
Et d'ailleurs, on va l'entendre comme ça.
Voilà, c'est les limbes heureuses. Mais, en plus, quand on regarde, il a ajouté une note pour la traduction en anglais, dont je ne savais pas en 2014 si elle venait de lui ou si elle venait du traducteur, pour dire, ces questions de changement de genre, de masculin, de féminin dans le texte, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'au fond, il y a un refus d'adhérer à ces catégories masculines et féminines. Donc, le rejet, alors en anglais, c'est adjectives, donc les adjectifs masculins et féminins, mais en français, c'est épithètes. Et à nouveau, et c'est la note qui correspond à limbe heureuse, c'est-à-dire à une première faute de genre, à nouveau, dans cette note, au moment de dire « ça n'a pas d'importance », il y a une faute de genre sur épithète, épithète qui est ici utilisée au masculin et non pas au féminin. Alors là aussi, on peut bien sûr s'y tromper, mais quand c'est Foucault, on se dit « ça veut dire quelque chose deux fois sur la même page et deux fois au moment de dire que ça n'a pas d'importance ».
Ça veut dire qu'il était troublé, perturbé justement par cette indécision de Barbin dans le texte et qu'il l'avait fait sienne d'une certaine manière ?
Ben, ça veut dire, à mon sens, qu'on n'échappe pas aux questions de genre. Même si on n'a pas le vocabulaire, le concept de genre, on est pris dedans.
Alors ça, c'est
et
vraiment...
que la langue joue un rôle important.
Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est toute la thèse de Foucault de dire justement Herculine avait échappé à la question du genre jusqu'au moment où on l'a assigné à son sexe, que la médecine, la loi, l'Église l'a assigné. Moi, ce qui m'a frappé dans le texte sur cette question, effectivement, on n'échappe pas au genre et au genre aussi grammatical, c'est qu'en fait, tout est dit dans le texte. En fait, c'est un texte C'est une manière de vivre. D'ailleurs, c'est Foucault aussi hein, qui le dit dans sa préface, qui dit « manière de vivre, manière d'écrire ». Il y a vraiment, dans ce texte, quelque chose de vital et on voit bien que la langue ne se surajoute pas en fait, à la vie, c'est qu'elle vient dire quelque chose. Cette nuit d'amour est une expérience sensorielle et pour la restituer, elle fait appel à la langue, non pas comme un moyen d'expression en plus, comme une traduction, mais comme quelque chose qui va dire la métamorphose qui s'accompagne. D'ailleurs, elle cite les métamorphoses d'Ovide. Il y a quelque chose de profond qui se joue à ce moment-là en Barbin.
Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas attendu les études de genre pour être travaillé par la question du genre. Et le genre, ça travaille la langue. Et donc, ça travaille les gens qui parlent la langue. Mais ce que nous montre le texte de Barbin, c'est que les personnes peuvent travailler la langue, peuvent travailler le genre. Autrement dit, c'est un rapport de pouvoir, mais justement, en termes foucauldiens, le rapport de pouvoir, c'est pas simplement ce qui nous pèse dessus, comme la domination, c'est un rapport de pouvoir, c'est une relation. C'est-à-dire, c'est quelque chose où le sujet peut se construire en faisant avec, en contournant. Et c'est quelque chose qui permet de ne pas seulement voir, même si c'est aussi une victime, Barbin comme quelqu'un qui subirait ce qu'on lui fait. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui fait des choses. Et d'abord, des choses avec la langue, parce que c'est cela que nous avons aujourd'hui, c'est un texte.
Monseigneur m'attendait.
J'ai une entrevue avec le docteur H. Trouvez-vous dans son cabinet, aujourd'hui, avec votre mère.
J'avais prévenu celle-ci la veille. Son anxiété ne peut se décrire. À l'heure dite, nous étions chez le docteur. Ce n'était pas ce qu'on appelle un médecin généralement répandu, mais c'était un homme de science dans toute l'acception du mot. Il avait compris toute la gravité de la mission qui lui était confiée. Elle le flattait dans son orgueil, parce que, assurément, c'était la première qui lui arriva de ce genre, et je dois dire qu'il était à sa hauteur. Je ne m'étais pas attendu néanmoins à une investigation aussi sérieuse de sa part. Il me déplaisait de le voir s'initier de lui-même à mes plus chers secrets, et je répondis en termes peu mesurés à quelques-unes de ses paroles qui me semblaient une violation.
« Ici, vous ne devez pas seulement voir en moi un médecin, mais un confesseur. » Si j'ai besoin de voir, j'ai aussi besoin de tout savoir. Le moment est grave pour vous, plus que vous ne le pensez peut-être. Je dois pouvoir répondre de vous en toute sécurité, à Monseigneur d'abord, et sans doute aussi devant la loi qui en appellera à mon témoignage.
Je me dispense d'entrer ici dans le détail minutieux de cet examen, après lequel la science s'inclina convaincue. Il lui restait maintenant à faire réparer une erreur commise en dehors de toutes les règles ordinaires. Pour la réparer, il fallait provoquer un jugement en rectification de mon état civil.
« Franchement, me dit le bon docteur, votre marraine a eu la main heureuse en vous appelant Camille. Donnez-moi la main, mademoiselle. Avant peu, je l'espère, nous vous appellerons autrement. »
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait des souvenirs d'Herculine Barbin, dite Alexis Navet, dite Abel Barbin. C'est vous, encore une fois, Éric Fassin, qui avez choisi de parler de ce texte, mais précisément cet extrait-là. Alors, cet extrait, il est ambigu, parce que c'est le moment où Herculine devient Abel, légalement, médicalement. Et on y a vu, notamment dans les lectures de Foucault et Butler, l'assignation de plus à un sexe et à un genre. On fera la différence, je pense, entre sexe et genre, parce qu'on l'a déjà évoqué. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe dans le texte. Il faut le dire, en fait, Herculine, d'ailleurs, elle ne le dit jamais vraiment, elle dit qu'elle se confesse, elle dit qu'elle voit bien que son corps ne ressemble pas à celui des autres jeunes filles, qu'elle éprouve du désir pour ses autres compagnes. Et effectivement, un coït a eu lieu avec Sarah, mais elle a le désir, en fait, de le dire. Elle veut dévoiler sa vérité. Sa vérité, c'est qu'elle n'est pas dans le... voilà, désignée avec le bon sexe. Elle n'est pas une jeune fille.
Effectivement, avant l'extrait qu'on vient de lire, Barbin est déjà allé voir un curé qui, de manière bienveillante, lui a dit « ne dites rien » et « allez dans un couvent de femmes ». Ce qui, évidemment, apparaît presque comme le début d'un conte licencieux du XVIIIe siècle. Mais aussi un médecin qui en l'examinant en raison de douleur, s'est aperçu que, effectivement, son anatomie ne correspondait pas à ce qu'on pouvait attendre.
Mais ça n'est pas dit.
De se taire.
Oui, ça n'est pas dit dans le texte, on ne sait pas trop, en fait.
Voilà, il n'y a aucun détail anatomique qui soit donné dans le texte, c'est seulement dans les rapports des médecins qui sont fournis en documents par Michel Foucault. Autrement dit, au fond, on sait très peu de choses, à part peut-être des poils qui apparaissent. Mais très peu d'indications sur ce que serait une différence anatomique.
Voilà, effectivement, elle se décrit en disant qu'elle était un peu plus poilue. D'ailleurs, ce qui l'empêchait d'ailleurs d'aller se baigner avec ses compagnes quand elles vont à la Côte Sauvage, à l'île d'Oléron. Voilà, donc, mais il n'y a pas de elle dit, voilà, je suis poilue sur toute la joue gauche. Mais je suis un peu plus forte, je n'ai pas de seins, mais c'est tout.
Et pas de règles aussi, même si le terme n'est pas utilisé.
Voilà, il y a un flou.
Aucun terme n'est donné, mais on le pressent avec des expressions indirectes, comme on pouvait le faire avec discrétion au 19e siècle. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le changement de sexe, ça n'avait pas du tout le même sens à ce moment-là, donc en 1860, qu'un siècle plus tard. Ça n'implique aucun traitement médical. Il n'y a pas d'hormones. Il n'y a pas d'opération. Donc en fait, c'est simplement l'État, à travers l'État civil. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, devant le silence du curé, puis du premier médecin, eh bien, Barbin va aller voir l'évêque, qui va lui proposer de voir un médecin, et ça veut dire que c'est la démarche de Barbin. C'est Barbin qui demande qu'on valide le sexe que Barbin veut choisir conformément à l'idée que sa sexualité définit son sexe. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que ce soit un simple choix libre de la vérité ultime ressentie par Barbin, puisque c'est aussi une norme sociale. C'est une norme sociale qui dit que l'homosexualité, ça n'existe pas, sauf comme perversité. Donc, il ne s'agit pas de remplacer une vision de l'assignation par la médecine et la religion, de remplacer ça par l'idée qu'au fond, ce serait juste son vrai moi. Il n'y a pas de vrai moi. Et c'est en ce sens-là qu'on est dans un monde proprement foucauldien. On est toujours pris dans, eh bien, des normes, des rapports de pouvoir, etc. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appellerait dans les études de genre « agency », c'est-à-dire une capacité d'agir, une puissance d'agir. Ça n'est pas simplement quelqu'un à qui on dit « voilà ce que tu es », c'est quelqu'un qui dit « puisque j'aime une femme, je dois être un homme ». Bien sûr, ça aussi c'est pris dans des normes, mais simplement c'est des normes qui vont être revendiquées en quelque sorte par Barbin. En même temps, et c'est là qu'on est pris dans le jeu des contradictions de ce texte, la suite va démentir. C'est-à-dire que l'idée d'être enfin devenu un homme, eh bien ça ne marche pas. Et ça conduit au suicide. D'où, bien sûr, la lecture foucauldienne qui est la nostalgie pour cette période heureuse où, finalement, il n'y avait pas eu besoin de changer de sexe pour être dans un monde de désir entre femmes.
Comment vous interprétez la suite du texte, Éric Fassin, ce moment où, effectivement, bon, le manuscrit est un petit peu plus compliqué à analyser, on sent que c'est débris, mais est beaucoup plus désespéré. Le début du texte est désespéré, c'est vraiment Abel Barbin qui nous parle depuis le présent, depuis voilà, la fin des années 1860, juste avant son suicide. Et puis, alors, les dernières pages, on retrouve le présent et le masculin, et il est désespéré. Il dit qu'il est isolé, il dit qu'il a été calomnié, il dit qu'il ne connaît pas pire que la nature humaine, alors que dans la plupart du récit, ce dévoilement de son genre, de son sexe, est accueilli. Alors, il y a des rumeurs, il ne les occulte pas, il y a de la calomnie, il y a de la maltraitance, il y a du peur, il y a de la honte. Il dit qu'il est dévoré du terrible mal de l'inconnu. C'est pas tout rose du tout, mais il y a beaucoup de bienveillance. Il est entouré, il est accompagné. Or là, en fait, on se demande ce qui s'est passé, le moment où, en fait, il devient ce qu'il a aussi envie d'être par des normes intériorisées, ben, en fait, et n'est pas un soulagement, mais un désespoir.
Alors, évidemment, on est dans l'interprétation. Parce que on a ce document tronqué, mais on n'a pas toutes les informations extérieures. Ce qu'on peut penser, c'est que, en un sens, c'est quelqu'un qui a été défini par l'homosocialité dans un monde de femmes. Et en fait, au XIXe siècle, la séparation en particulier dans la bourgeoisie, entre les hommes et les femmes, elle est très forte, donc qui se retrouve dans un monde d'hommes. Et peut-être qu'on pourrait faire l'hypothèse que n'être pas tout à fait une femme est moins difficile à vivre au XIXe siècle que de n'être pas tout à fait un homme dans un monde d'hommes. C'est-à-dire que, évidemment, le genre, c'est pas symétrique. Mais bien sûr, on ne sait pas exactement. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est tout simplement que l'illusion selon laquelle changer de sexe allait tout régler a été démentie par l'expérience. C'est-à-dire qu'au fond, le moment de plus grande agency, donc capacité d'agir, c'est le moment de changer de sexe. Mais après, cette capacité d'agir est très réduite.
Est-ce que c'est là où on peut faire cette distinction, Éric Fassin, entre sexe et genre ? C'est-à-dire que le changement de sexe a été possible, le changement de genre, avec toutes les normes que ça implique en termes de sociabilité, de représentation, de force, de puissance, on connaît les valeurs voilà, masculines, est plus compliqué parce qu'en fait, Barbin a grandi en fait, dans des milieux qui n'étaient pas masculins et n'a pas en fait, ce rapport-là au monde.
L'idée que le sexe, ce serait la totalité de la réalité, de la place que nous occupons dans le monde, eh bien, c'est démenti par les études de genre. C'est plus compliqué. Et en particulier, de ce point de vue, vous avez déjà évoqué l'inédit de Michel Foucault que nous venons de publier, Les Hermaphrodites, avec Arianna Sordini. C'est un texte intéressant parce que Michel Foucault, qui continue de ne pas utiliser le mot genre ou le concept de genre parce que finalement, d'une part, ça n'était pas encore très répandu, mais aussi, d'autre part, parce que c'était très étranger à sa conception des choses, puisque pour lui, l'opposition entre genre et sexe qui fonctionnait dans les années 50 dans le monde psychomédical, qui fonctionnait dans les années 70 avec les féministes, cette opposition de nature-culture n'avait pas de sens pour Michel Foucault, pour qui il n'y a que de l'histoire, y compris quand on parle du sexe. Donc, en un sens, si aujourd'hui les féministes peuvent, à juste titre, s'emparer de Foucault et s'en servir, c'est parce que cette question-là n'est plus d'actualité, c'est plus nature-culture. En fait, depuis Judith Butler, avec Troubles dans le genre en 90, mais aussi depuis Anne Fausto-Sterling, la biologiste féministe, avec son texte de 1993 sur les cinq sexes, eh bien, cette biologiste montrait que, au fond, on dit il y a deux sexes, oui, bon, c'est une manière de décrire les choses. Mais on pourrait dire il y a aussi des hermaphrodites et des pseudo-hermaphrodites masculins et féminins. Donc, en réalité, ce sont des conventions pour décrire le monde qui ont une certaine efficacité, mais qui ne sont pas la vérité même des choses. Autrement dit, la biologie, c'est-à-dire les corps, c'est pas la même chose que la biologie comme discipline. C'est juste un savoir, une manière de décrire la réalité qui fonctionne bien pour beaucoup de gens, mais qui ne fonctionne pas pour tout le monde et qui, en plus, a des effets, bien sûr, d'assignation, de hiérarchisation, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette question du sexe, eh bien, elle a changé de sens puisque aujourd'hui, plus personne ne pense en réalité que le sexe, c'est juste de la biologie. Si on regarde, par exemple, je l'ai évoqué dans la postface des hermaphrodites...
Enfin, sauf
si
Trump, regarde...
Voilà.
Sauf Donald Trump.
Oui, mais Trump se prend les pieds dans le tapis, si je puis me permettre cette image.
Je dis ça parce qu'il a réaffirmé l'idée qu'il y avait deux sexes biologiques qui étaient déterminés, pas seulement par des phénotypes, mais vraiment par une réalité biologique de production de gamètes, d'ovules, etc.
Mais il a tort scientifiquement. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, le jour de son investiture, il y a un décret pour rétablir la vérité du sexe. Mais qu'est-ce qu'il commence par dire, ce décret ? Eh bien, c'est que c'est l'État qui décide qu'il y a deux sexes. Autrement dit, on est déjà dans la politique. Il dit bien que c'est l'État. Ce n'est pas la biologie, au départ, c'est l'État. Et donc, c'est ce qui va permettre de changer les passeports de gens qui auraient déjà été reconnus comme ayant changé de sexe, etc., avec des conséquences très cruelles pour beaucoup de gens. Mais il y a autre chose. C'est qu'ensuite, quand il veut définir par la biologie, il dit c'est quoi les hommes, c'est quoi les femmes ? Alors, les femmes, c'est des êtres qui, dès la conception, ont des cellules de reproduction qui sont plus grandes. Et les hommes, qui ont des cellules de reproduction qui sont plus petites. Eh bien, c'est faux, parce que ce n'est pas dès la conception. C'est six semaines plus tard. Donc, en fait, c'est une biologie fausse, mais c'est aussi une biologie simplifiée. Parce qu'en réalité, pour la biologie, il n'y a pas une définition du sexe, il y en a trois. Il y en a une qui est par les gamètes, effectivement, mais il y en a une aussi qui est par les organes génitaux, et il y en a une, enfin, qui est par les chromosomes. Et les trois ne coïncident pas toujours. C'était précisément l'enjeu des batailles qui ont eu lieu en France en 2011 autour des manuels de sciences de la vie et de la Terre. Ces manuels qui ont provoqué une tempête contre la théorie du genre. Pourquoi ? Parce qu'on rappelait que pour la biologie, c'est pas si simple. Il y a trois définitions et elles ne coïncident pas exactement. Donc, que fait Donald Trump ? Il dit « je m'appuie sur la biologie », mais en réalité, il s'appuie sur le sens commun, à savoir il y a des hommes et il y a des femmes, ce qui n'est pas ce que raconte la biologie en tant que discipline. Donc, il y a une... On n'est plus dans le monde que décrivait Foucault, celui du vrai sexe qui serait défini par la médecine. On est dans un autre monde. Ça avait déjà changé dans les années 50 avec John Money et Robert Stoller, et en particulier John Money qui va en quelque sorte dire « bon, s'il y a des enfants dont le sexe est un peu indécis, on va régler tout ça. »
Ce qu'on appellerait avec... intersexe, par exemple.
Voilà, ce qu'on commence à appeler à partir des années 90 intersexe. Eh bien, on va régler tout ça parce que jusqu'à l'âge de 2 ans, finalement, tout ça est assez souple. Donc, on peut transformer les personnes et leur assigner un sexe à travers la chirurgie, puis à travers l'éducation, à travers les hormones, etc. C'est une violence qui est faite à des corps et que dénoncent les mouvements intersexes en disant « c'est à nous de choisir, c'est pas à la médecine de décider de ce que nous sommes, de nous assigner un sexe ». Mais ça, ça voulait dire déjà que ça n'était plus le vrai sexe. C'était le meilleur sexe, c'est-à-dire on va faire au mieux. C'était donc pas la vérité ultime du sexe qui serait tapis en nous, comme dit Michel Foucault, c'est au contraire... Bon, on va bricoler quelque chose pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Et le mouvement intersexe, c'est cela qu'il refuse. Mais que fait aujourd'hui Donald Trump ? Il ne nous dit pas le vrai sexe, il ne nous dit pas le meilleur sexe, il nous dit le sexe d'État. C'est l'État qui dit « il n'y a que de sexe ».
Avant que je vous lance sur Donald Trump, Éric Fassin, vous parliez justement de plus personne ne croit en fait au fait qu'il y ait un sexe biologique qui détermine tout. Est-ce qu'on peut penser alors que... On est maintenant, c'est acquis que, et grâce aussi à des voix comme celle de Barbin, qu'en fait, on est dans une existence qui est plutôt influencée par le genre. Voilà, que c'est le genre, mais que néanmoins, ce genre-là, même si on se l'approprie, eh ben, on ne peut pas y échapper. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas y échapper, que ce soit par la langue, que ce soit par... Et puis même cette idée, en fait, de découvrir un vrai genre, quelque chose de vrai et tout, est-ce que ça, c'est possible ?
Bah, je crois que...
Vous avez 1 minute 30.
On est à un moment où les jeunes générations, manifestement, travaillent cette question. C'est-à-dire, essaient d'inventer des manières de vivre qui n'entrent pas dans cet ordre. Donc, ça n'est pas simplement quelque chose, encore une fois, que les personnes subissent. Et c'est en ce sens-là, je crois, que Barbin, ça nous parle aujourd'hui. C'est en faire quelque chose. Donc, qu'on parle d'identité non-binaire ou fluide, etc. Alors, bien sûr, on pourrait dire, les antigenres, pour eux, ça n'existe pas. Sauf qu'ils disent qu'il faut défendre les stéréotypes de genre. Ils disent, par exemple, qu'il faut du bleu et du rose. Oui. Autrement dit, du point de vue même des antigenres, eh bien...
Le genre existe encore.
Le sexe, c'est de la biologie peut-être, mais c'est quand même très fragile. C'est bien pour ça qu'il faut préserver le mariage, le bleu et le rose, pour être sûr que les garçons soient les garçons et que les filles soient les filles, c'est-à-dire qu'ils sont dans le monde d'Ambroise Tardieu.
Mais j'abuse parce que je tire sur le temps, Éric Fassin, mais juste une question, est-ce que c'est vraiment le terme de vérité qui va avec genre ? C'est-à-dire que Foucault parlait de vrai sexe et condamnait d'ailleurs cette tendance à vouloir trouver le vrai sexe. Est-ce qu'on doit aujourd'hui parler du vrai genre ? Comme si c'était notre vrai soi. Est-ce qu'il faut renoncer à allier vérité et genre ?
Ce que nous apprend Foucault, c'est que vérité et pouvoir ont partie liée. Et donc, c'est à cela qu'il faut résister, je crois. C'est-à-dire essayer de ne pas se laisser assigner une vérité, mais peut-être qu'il n'est pas nécessaire pour autant de revendiquer en retour une vérité. Et d'ailleurs, beaucoup de mouvements minoritaires essaie de déjouer ce jeu de la vérité. Par exemple, des personnes trans qui ne vont pas dire « maintenant je suis un homme », mais qui vont continuer de dire « je suis une personne trans ».
Baby.
Cette chanson des Stooges, Eric Fassin, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment que vous n'aimez pas du tout, c'est qui ?
Je voulais parler de Michel Houellebecq. En fait, c'est un auteur que j'ai lu et sur lequel j'ai écrit. J'avais écrit, après en avoir parlé dans mon séminaire à l'École normale, j'avais écrit en 2000. Puis j'ai réécrit en 2019, après en avoir parlé sur France Culture en 2015. Et en fait, c'est un auteur qui me paraît surfait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe en France qui est qu'on dit... On ne peut pas faire de la littérature avec des bons sentiments et on finit par croire qu'il suffit d'avoir des mauvais sentiments pour faire de la bonne littérature. Mmh. Je crois que Houellebecq nous rappelle que ça ne suffit pas et que cette écriture, au fond, la raison pour laquelle elle a pu susciter un désir, c'est parce qu'elle joue d'une ambiguïté, c'est-à-dire à la fois je vous parle du monde, mais bien sûr ça n'est pas sérieux, c'est ironique. Donc pendant longtemps, on n'a pas trop su politiquement où il se situait. Certes, il y avait des propos qui étaient manifestement pas très féministes, mais on pouvait se dire, oui, mais ce sont ces personnages, etc. Ensuite, ça a été sur l'islam. Je crois que ce qu'on a fini par comprendre, c'est qu'il y avait quelque chose à apprendre, malgré l'affectation d'ironie, de manière très, très littérale. Et on se rend compte du rôle qu'a pu jouer l'ironie, c'est-à-dire, je dis ça, mais je ne le dis pas. Je dis ça, mais je dis rien. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Eh bien, cette ironie-là, il me semble qu'elle a préparé le terrain pour le monde dans lequel nous vivons, où maintenant, il n'y a plus du tout d'ironie. Il y a quelque chose de très littéral dans des discours qui sont des discours de haine sur les questions sexuelles et sur les questions raciales.
Merci beaucoup, Eric Fassin. De vous, on peut lire « La savante et le politique », ce que le féminisme fait aux sciences sociales, que vous avez coécrit avec Caroline Nibaud, c'est aux éditions PUF. « Les hermaphrodites » de Michel Foucault, avec votre postface, c'est aux éditions Gallimard. Votre « Que sais-je », très important, très pédagogique, « Les études de genre ». Et pour lire « Mes souvenirs » d'Herculine Abel Barbin, dite Alexis Nabé, présenté par Foucault. Et dans votre édition, avec votre postface, Eric Fassin, c'est chez Gallimard. Erratum, la côte sauvage n'est pas sur l'île d'Oléron, elle est à Royan. Herculine va se baigner à Saint-Trojan sur l'île d'Oléron. Un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation, à Raphaël Laloum à la lecture des textes, à Nicolas Leroulet à la prise de son. Les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.
Merci.